Comment des objectifs personnels peuvent-ils déboucher sur de beaux projets solidaires? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos, je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Pour la petite histoire, je dois vous dire que j'ai eu mon invité du jour comme étudiant alors que j'étais encore enseignant il y a quelques années. Mais à l'époque, nous ne parlions pas du tout de sport dans les cours. Bon, c'est des cours de marketing, réseaux sociaux, des choses comme ça. Puis moi, je ne courais pas et puis nous étions l'un et l'autre beaucoup plus enrobé, et en fait je n'avais aucune idée et c'était improbable qu'un jour on se retrouve pour parler de running dans un podcast. Oui, les temps ont bien changé, maintenant nous avons perdu du poids, nous courons. Jean-François a perdu beaucoup de poids, il va nous expliquer exactement comment, et il s'est lancé dans la course à pied pour progresser en padel. Alors le padel, hein, c'est peut-être un sport que vous ne connaissez pas, alors j'en ai profité pour lui poser des questions. Je parle bien de padel et pas de paddle, hein. C'est pas sur l'eau, hein, c'est dans un terrain qui ressemble à un terrain de tennis, squash, des murs, etc. Il va nous expliquer exactement comment ça se passe. Et puis pour progresser dans paddle et tout, il s'est mis à la course à pied, et le paddle lui a permis de découvrir de nouvelles personnes. Il lui a aussi permis de découvrir Tony, atteint de la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est une maladie qui est vraiment terrible, qui est dégénérative, qui fait froid dans le dos, hein, vraiment, contre laquelle il n'existe aucun traitement. Mais Tony et sa famille, eux, ont choisi d'utiliser le froid pour lutter contre son évolution. Si bien que Wim Hof, monsieur Iceman lui-même, est devenu parrain de l'association qu'ils ont créée et des démarches qu'ils font autour du froid, de la respiration, justement pour trouver des solutions pour limiter l'avancement de cette maladie. Et vous allez découvrir que Jeff, en fait, pour aider cette association, a choisi une forme qui est vraiment originale pour faire grimper la cagnotte. Et il a des talents de commerciaux, bien entendu, etc. Mais le format était original. Il a réussi à rassembler derrière lui plus d'entreprises qu'il le pensait, et il a réussi à collecter plus d'argent qu'il le pensait, et vous allez voir que c'est parti pourtant d'une petite idée qui paraissait comme ça un petit peu anodine. Donc avec Jeff, nous avons parlé de son parcours, du poids perdu, de ses défis sportifs, de comment en fait il est venu à la course à pied, de comment il a perdu du poids d'abord. Nous avons aussi parlé de padel, hein, de à quoi ressemble ce sport, pourquoi il aime ce sport, une des caractéristiques principales de sport, hein, qui se joue forcément à deux contre deux, et ça c'est important, mais ça crée aussi une autre forme de relation dans le sport. Et puis on a parlé aussi de son soutient cette association, comment nous pouvons nous aussi finalement soutenir des causes, hein. Je vais poser des questions, de dire bah tiens, si nous aussi il y a des causes qui nous intéressent, si on veut soutenir des associations, comment on peut faire pour nous aussi rejoindre des associations comme ça, et il nous donne quelques conseils. Et bien entendu, nous en parlons aussi de ses projets futurs et notamment de son futur marathon. Alors il s'est donné du temps pour le courir, pour le préparer. Je trouve que c'est aussi une belle manière de voir les choses, hein, de dire on est toujours pressé. Lui, il a décidé de se donner du temps pour bien le préparer, et vous allez voir un petit peu comment il va faire et où il va le faire. Bien sûr, c'est relié au froid, hein. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans la suite de nos discussions. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Très bien, je te remercie. Très content d'être là avec toi aujourd'hui.
Bah écoute, moi aussi je suis très content. Puis en plus, tu vois, comme je te disais, j'ai regardé ton compte Instagram et j'ai vu qu'ils t'ont sorti de ton congélateur dans lequel tu as fait une photo. Mais qu'est-ce que tu faisais dans un congélateur?
C'est vrai qu'ils m'en ont sorti et puis ils n'ont pas fermé la porte quand j'étais dedans. Donc ça, c'est déjà très très sympa de leur part. En fait, j'apprenais à m'immerger par le froid pour essayer de récupérer sur mon plan running, en fait, que je suis en plein dedans.
Et ça a marché?
Alors, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien pour la récupération, pour réduire les inflammations. C'est un, je n'irai pas jusqu'à dire un pur moment de bonheur, mais c'est quelque chose qui fait du bien au corps et à l'esprit.
Et alors, ma curiosité vient me dire, mais alors, ton congélateur, là, il est chez toi? Il est où, ton congélateur?
Non, en fait, le congélateur, comme tu dis, c'est une partie intégrante de l'association Ice for Life, pour lesquelles j'ai un projet en cours sur la saison 2023-2024. Et en fait, il est dans les locaux de l'association, tout simplement.
D'accord, parce que tu sais que je connais des gens, enfin je les connais par Instagram et tout, hein, parce que j'aurais peur qu'ils m'enferment dans leur congélateur, qui ont un congélateur comme ça sur leur terrasse, dans lequel ils se trempent tout le temps. Tu vois, je pense à un Anglais notamment que je suis beaucoup, qui fait ça et tout. Hein. Donc je me dis peut-être que tu avais investi dans un congélateur ou que tu avais enlevé toutes les glaces de ton congélateur pour mettre de l'eau et pour te foutre dans le froid tous les jours. Peut-être c'était une nouvelle tradition.
Eh bien, j'y pense. Là, j'ai la chance de pouvoir le faire avec les membres de l'association. Mais effectivement, il y a des petites congélateurs ou autre façon de faire, hein, une simple poubelle, une grande poubelle qu'on voit parfois, ou un grand vase noir, tu sais, en plastique qu'on voit, avec de l'eau et des glaçons, et je vois, et effectivement, il y a plein de gens qui font, et d'ailleurs, là, tu connais certainement la personne la plus connue, c'est Wim Hof, qui est un grand monsieur par le froid, et qui est aussi parrain de l'assaut, tu vois. Finalement, ouais. Tout se rejoint.
Alors, déjà, pour ceux qui écoutent cet épisode, qui n'ont pas écouté les anciens épisodes de Kilomètre 42, on peut le dire qu'on a parlé de Wim Hof déjà, mais ouf, je sais pas combien de fois. Et notamment parce que j'ai fait un épisode avec un instructeur de Wim Hof. Alors là, il faut aller regarder dans les archives, vous trouvez l'épisode avec Leonardo Pelagotti. On avait beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup parlé du froid. Puis il y a eu d'autres épisodes sur lesquels on avait parlé du froid. Et bon, ça m'intéresse ton projet, mais d'abord quand même, parce que là, bon, je t'ai charrié sur cette histoire de trucs de congélateur, de savoir si tu es transformé en glaçon, etc. Mais finalement, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour qu'on situe un peu qui tu es, parce que là, on est parti directement dans le vif de la discussion. Moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas.
Bon, eh bien, écoute, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc moi, c'est Jean-François, c'est Jeff pour les copains. J'ai 36 ans, je suis un sportif, tout ce qu'il y a de plus amateur. C'est vraiment très très important de le dire, et j'ai toujours été un peu un touche-à-tout. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du volley, j'en ai fait pendant plus de 15 ans en sport-études, j'ai fait du crossfit, j'ai fait énormément de sport, et là aujourd'hui, eh bien, je fais du padel. Alors attention, pas sur l'eau, hein, même si...
Mais... Ah, tu as enlevé ma blague.
Non. Bah oui, j'ai anticipé, tu n'es pas le premier, je ne suis pas à le dire, et ce n'est pas la première fois que je l'entends. Non, mais pas sur l'eau, non. Tu sais, cette espèce de tennis en cage?
Ouais.
Eh bien voilà, moi je fais ça, et pour faire ça, pour essayer, j'allais dire, d'avoir un peu une meilleure condition physique, je me suis mis à la course à pied.
Ouais.
Et
ça a marché?
Ouais, ben en fait j'étais arrivé à un stade où j'avais un IMC qui me faisait dire que j'étais devenu trop petit.
Oh, arrête. Et quand tu vois physiquement, j'ai du mal à le croire.
Eh ben, ben écoute, c'est que finalement la course à pied fait du bien. Mais je suis monté un peu haut sur la balance. Je suis monté un peu haut sur la balance, effectivement. Et pour ça, j'ai décidé de me reprendre en main il y a 2 ans. À peu près. Et donc voilà, d'allier un petit peu course à pied et nutrition.
Alors, ah oui, attends, remarque, je viens de trouver une photo qui a 150 semaines. Ouais, attends, c'est 150 fois 3 ans. Bah, t'as une raquette de paddle dans les mains, hein, franchement.
Ouais.
Je sais pas comment tu pesais à l'époque, mais effectivement, t'es pas taillé pareil.
Ouais, je dois faire à peu près dans les 120-125 kilos.
Ah, quand même! 120-125 kilos! Waouh! Ouais. Dis donc!
Un beau bébé.
Waouh! Ah ouais, effectivement. Alors, pour l'anecdote, moi je t'ai eu comme étudiant.
Oui.
Comme ça,
oui.
On va préciser les choses. On n'a pas tant d'écart d'âge que ça, pour ceux qui se doutent. Parce que t'as quel âge, tu m'as dit?
J'ai 36.
T'as 36, ouais, on a 10 ans d'écart.
Ouais, on a 10 ans, un peu.
T'étais en poursuite d'études, je sais pas dans quel cas t'étais là et tout. T'étais le vieux des jeunes, en fait.
C'est ça, exactement. J'étais en reprise d'études. Il y a quelques années de ça, et j'ai eu le plaisir de t'avoir en cours.
Ouais, t'es pas obligé de dire plaisir, parce que là, je te note plus, tu vois, c'est fini les notes.
Je t'avais mis en cours.
J'avais une bonne note, etc.
Donc, tout va bien.
Bref, attends, c'était il y a un paquet de temps quand même. Hein. C'était quoi, il y a 5-6 ans, cette histoire-là?
Presque 10.
Presque 10
ouais, déjà. Ouais, quand le temps se passe vite, on avait moins de cheveux blancs, c'est ce que je dis parfois.
Mais à l'époque, tu faisais pas 125 kilos?
À l'époque, je faisais pas 125 kilos, effectivement, mais j'ai fait quelque chose. Alors, j'ai toujours eu un poids très fluctuant, hein, mais j'ai fait quelque chose que beaucoup d'hommes, je pense, connaissent, qui s'appelle la couvade.
Je connais.
Voilà. Et j'ai essayé de battre mon épouse dans sa prise de poids lors de la grossesse, et j'ai réussi, et j'ai réussi assez facilement.
Ouais, sauf qu'elle, elle les a perdus après, derrière. Enfin.
Exactement. Sauf qu'elle, elle les a tous perdus. Et moi, je me suis dit, tiens, que j'allais en garder quelques-uns, quelques années de plus.
Bon, voilà. Ton accouchement personnel s'est bien passé? T'as réussi à les évacuer, je vois.
Là, maintenant, ça va. Là, maintenant, ça va. C'est vrai que j'ai le plaisir de pouvoir courir un peu plus vite. Mais finalement, tiens, vu que tu es sur Instagram, tu as mis un petit post sur Instagram qui m'a fait beaucoup sourire parce que je me revois où tu parles de ton nouveau toc, de te regarder devant la glace, voir si t'as toujours des abdos, s'ils ne sont pas enfuis. Et c'est vrai que je vis un peu la même chose ces derniers temps. Donc,
Mais moi, en fait, c'est qu'ils sont, ils étaient cachés depuis des années, et ils ne réapparaissent pas, en fait. Et non. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est mon réel. On enregistre le 26 juin, donc comme ça, vous regardez le réel du 26 juin. Je mettrai un petit lien dans les notes de l'épisode. Mais effectivement, hein, c'est mon toc. Et en fait, j'en parle parce que je pense que je suis pas le seul et qu'il y a plein de gens qui font ce truc-là, qui ne disent pas, etc. T'as fait comment pour perdre ce poids? Tiens, parce qu'il y en a plein qui vont être intéressés. Ils se demandent comment t'as fait.
Alors. C'est assez bizarre à dire, mais moi vraiment c'est le j'ai fait deux en fait j'ai eu un choix on va dire qui s'est imposé à moi et qui s'est imposé à plein d'autres personnes, vous allez très vite le comprendre. Ce choix, il s'appelle le confinement.
Ouais.
Et c'est-à-dire que quand le confinement est arrivé, j'avais deux options, c'était soit sortir du confinement, je ne savais pas combien de temps ça allait durer bien entendu, mais avec 5 10 15 kilos en plus, ou au contraire 5 10 15 kilos en moins.
D'accord.
Donc il y a eu vraiment il y avait deux options qui s'offraient à moi. J'ai pris l'option numéro une, l'option numéro deux, pardon, c'est-à-dire de sortir avec 5, 10, 15 kilos en moins. Et je me suis mis à télécharger une application la plus basique possible, gratuite, avec des exercices de sport en vidéo, chronométré, je ne sais plus trop, et de faire du sport deux fois par jour à la maison, bien sûr, sans sortir. Puisqu'à ce moment-là, courir n'était même pas dans mon optique. Et voilà, et tout simplement une petite demi-heure le matin, une petite demi-heure l'après-midi, ça m'occupait entre deux cours de maternelle au niveau de mon fils, enfin voilà, de plein de petites choses comme ça, ou entre deux cours de collège au niveau de ma fille, et puis ça a été le déclencheur numéro un, et bien sûr l'allié un peu à la nutrition, quoi, hein. À un moment donné, quand on arrête les pizzas et qu'on se met à en manger une fois de temps en temps plutôt que tous les jours, ça aide.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand ta pizza devient extraordinaire au lieu d'être ordinaire,
c'est ça.
Ça aide beaucoup. Mais d'ailleurs, j'ai une pensée émue pour mes années où j'étais prof et j'avais des étudiants en face de moi. Et qu'est-ce qui mangeait mal tes collègues de promo quand même?
Bon, moi le premier. Hein. Enfin, j'étais un peu. Ça allait mieux, mais c'est vrai que c'était. À 20 ans, hein, c'est plus facile. Hein, Mais voilà, non, ouais, ça m'a bien permis de remettre j'allais dire, de me remettre sur les rails.
Ouais, bon, j'imagine que le paddle, ça doit être quand même plus facile quand t'as. T'as perdu combien de kilos au total
là? Là, aujourd'hui, je suis dans les 80, donc ouais, j'en suis à moins, ben, faut faire le calcul, moins 45.
Ouais, donc le paddle, ça doit courir plus vite sur le terrain maintenant quand même.
Ça va mieux. Facile, hein. Je suis plus lucide à la fin du match. Je suis plus lucide à la fin du match, ouais, tout à fait. Ça reste plus facile.
Alors, tu vois, moi j'ai ma curiosité quand même. Après, on parlera course à pied, etc. Mais bon, le paddle.
On parlera plein de choses.
Hein, franchement.
Oui.
Pour ceux qui ne voient pas, parce que bon, tu t'as dit, tu es à un espèce de terrain de tennis en cage.
Voilà. Ouais, pour faciliter la compréhension, ouais, c'est plus simple.
Mais en fait. C'est quoi la balle, elle rebondit contre les côtés ou comment ça se passe?
Alors, aujourd'hui, le padel, je pense que c'est un des sports qui a l'une des plus grosses progressions en France. Il faut savoir déjà que ça vient, ça vient de... Alors, c'est très, très connu. Je ne vais pas dire ça vient. C'est très, très connu en Espagne. C'est le sport numéro 2 derrière le football.
D'accord.
C'est le nombre qui a le plus de licenciés derrière le football. En France, pour te donner un ordre d'idée, moi, quand j'ai attaqué il y a 2 ans, et je suis très loin de faire partie des premiers joueurs, hein, il y a eu des milliers de joueurs avant moi, je crois que j'étais... quand j'ai fait ma première licence, il y avait genre 8 000 personnes, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je crois que ça a passé la barre des 30 ou des 35 000. C'est vraiment... on est sur quelque chose de très d'exponentiel. Mmh. Et pourtant, c'est une goutte d'eau.
Ouais.
Mais c'est un mélange de... C'est vrai que la façon facile de dire que c'est un mélange de tennis, parce que ça, on compte les points de la même façon, on a un terrain qui y ressemble. Dans une cage, parce qu'il y a ce côté vitre, grille que tu arrives à voir. Et par contre, c'est quelque chose de très visuel. Tu peux taper dans la vitre pour la faire passer de l'autre côté. Tu peux la prendre en direct. T'as le droit de sortir du terrain pour aller sauver la balle. C'est quelque chose qui est très intéressant visuellement à voir. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un état d'esprit, j'allais dire de nouveaux sports, en tout cas en France, qui ont fait quelque chose de très loisir, même dans le côté compète, et que c'est un sport qui se joue à deux, toujours, en double.
Toujours deux contre
deux. Ah. Ouais, toujours en double. Tu ne trouveras pas de match en individuel, en simple, comme tu peux le dire au tennis. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça donne un côté convivial. Tu joues avec ton partenaire, tu gagnes et tu perds avec ton partenaire. Et c'est vrai que même avec les adversaires, moi, c'est ce qui m'a plu le plus, en fait, dans le côté loisir, c'est que au début, tu joues, tu gagnes ou tu perds, mais à la fin, tu bois une bière ou un Perrier quand tu essayes de faire attention à ce que tu fais.
Mais alors attends, si tu joues toujours en double, c'est-à-dire qu'il faut quand même que dans les clubs, il y ait quand même pas mal de joueurs pour arriver à trouver toujours quelqu'un pour jouer avec toi. Et c'est pas une personne qu'il faut trouver avec toi, il faut toujours trouver 3 personnes en fait pour jouer avec toi.
Il faut toujours trouver 3 personnes. Quelque part, c'est plus facile que pour trouver, pour faire un match de foot, il faut toujours en trouver 21. C'est parfois plus simple.
Mais au tennis, il en faut qu'une.
Au tennis, par contre, voilà, il faut qu'un seul adversaire. Là, il faut trouver 2 adversaires et un partenaire. Mais comme je te disais, moi, par exemple, je joue vers Clermont-Ferrand. J'ai pas les chiffres exacts, hein, loin de là, mais je me demande s'il y a pas, il doit y avoir plusieurs, allez, au moins un millier de joueurs. Donc finalement, c'est assez facile de trouver 3 personnes de plus pour jouer avec toi.
D'accord. Et donc tu disais les points se comptent comme au tennis.
Tout à fait.
J'imagine qu'il y a des tournois, des compétitions, des trucs comme ça. Il y a des points, pareil. T'as des classements, t'as des trucs comme ça.
T'as des points, alors voilà, t'as des tournois qui sont répertoriés suivant des niveaux en fait, qui vont du P25. P c'est aussi bien pour le mot padel que pour le mot point, et 25 c'est le nombre de points distribués pour le gagnant à la fin.
D'accord.
Donc et en fait plus t'as de points et mieux tu es classé sur le classement français.
D'accord.
Et donc ça va du P25 qui est un tournoi pour les débutants, l'initiation, qui ont envie de se mettre un peu à la compétition. Et après, ça va au P100, P250, P500, 1000, 1500 et 2000. 2000, c'est la FFT, la Fédération Française de Tennis, qui les gère. Et il n'y en a que 4 par an en France, par exemple. Et okay. Là, c'est le top.
Et par rapport au tennis, c'est quoi? C'est plus rapide, plus exigeant, plus quoi?
À une époque, au début, ça aurait eu tendance à être plus lent, justement, plus stratégique, puisque, par exemple, un joueur tennis qui arrive sur le terrain, qui fait son premier match, il aura quand même une certaine aisance technique, ce qui est bien normal. Mais un joueur tennis qui frappe fort, il y a une vitre derrière qui va renvoyer la balle. Il aura une tendance à être contre-attaqué, à le reprendre dans les dents sans s'y attendre. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal parfois à accepter. Mais le joueur de tennis qui est fort à la volée et qui a vite compris que tout frapper ne marche pas, ça devient un très très bon joueur de padel. Et c'est un sport qui est très stratégique, vu que ça se joue en double. On bouge en équipe, on joue en équipe. Et ça aussi, ça a une vraie plus-value. Un joueur très très fort et un joueur moins bon, ça fait pas une paire très très forte. Il y a beaucoup de paires. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs très très bien classés au niveau national. On a souvent perdu, hélas, face à des joueurs bien moins bons que lui, parce que moi j'étais là, tout simplement.
Mm-hmm.
Il faut rendre à César ce qui est à César. Le niveau, plus la paire est homogène, plus elle a de chances d'aller loin.
Ouais. Et donc, si je comprends bien, en fait, le but, quand même, c'est qu'il faut empêcher la balle de rebondir deux fois. Tu marques le point quand la balle rebondit deux fois chez les autres.
Exactement. Empêcher la balle de rebondir deux fois chez soi, sinon tu perds le point, ou la faire rebondir deux fois. Il y a droit qu'à un seul rebond. Il faut aussi la balle. Il y a plein de petites spécificités. Tu peux taper la balle, par exemple, rebond chez l'adversaire, une vitre, et l'adversaire pour la rejouer. Par contre, si toi, tu l'as fait toucher directement la vitre, sans rebond au sol, tu perds le point.
Ah ouais.
Tu vois, il y a plein de… Ouais, c'est pas comme au squash. Au squash, par exemple, tu n'as pas le droit de taper le sol avant de taper le mur. Et ben là, tu n'as pas le droit de taper la vitre avant de taper le mur. Il y a plein de petites spécificités comme ça.
Ok. C'est drôle parce que… Je me demande quel esprit a eu l'idée d'avancer ce sport, mais bon, ça a l'air de plaire à beaucoup de gens.
Je crois que historiquement, et je voudrais m'excuser auprès des historiens du padel si je dis une bêtise, je crois que ça vient d'Argentine et c'est quelqu'un dans son jardin qui n'avait pas la place de faire un terrain de tennis. Mm. Donc, il a, eh ben, entre quatre murs, il a un petit peu adapté comme il a pu et il a eu un de ses amis espagnols, je crois, qui est venu jouer, qui a exporté ça en Espagne et ainsi de suite, finalement. Mm. Mais je crois que la genèse, elle part de là. Donc, voilà, c'est vrai.
Mais tu sais à quoi ça me fait penser, ce sport, en fait par certains aspects, j'ai l'impression que ça me fait penser à la pelote basque. Tu sais, alors la pelote basque, pas celle qui joue sur un fronton en extérieur, mais la cesta punta, tu sais, qui joue avec les grandes espèces de trucs, là, les espèces de trucs en corne.
Avec les grands trucs en osier qui
pètent. Où t'as un grand mur, ouais. Et puis tu vois ça sur le côté, où ça rebondit sur les murs, où les mecs, ils montent après les murs et tout. Ce qui, pour nous, est un sport qu'on voit en Pays basque, mais qui, dans certains pays, notamment les États-Unis et tout, c'est transmis à la télé, il y a des trucs qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on voit, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ce truc-là, non?
Eh bien, il y a un peu de ça, et puis c'est vrai que quand on pense à un côté, une balle, des murs autour, tout de suite tu te mets à penser au squash, à la pelote basque, au tennis aussi, parce que bon, là c'est vrai que c'est le sport qui est, j'allais dire, cousin. Ouais. Mais t'as un côté aussi beach tennis, parce que le côté, la raquette est pas du tout la même.
Ah oui, ça, faut qu'on en parle de la raquette.
Trouée, c'est une raquette particulière, c'est particulier.
Attends, comment on peut décrire cette raquette? On dirait une crêpière avec des trous au milieu dedans. Elle est en quoi? Elle est en bois, en quoi?
Alors ça dépend. T'as plusieurs types de raquettes, t'as plusieurs formes déjà. Il y a différentes matières. En fait, c'est des faces et au milieu une mousse. Mmh. Et suivant la technicité, la raquette en elle-même, il y a différentes mousses, différentes faces, il y a du carbone, il y a plein de choses. C'est vraiment, c'est assez technologique. Mais je pense que les premières, elles étaient en, je veux pas dire de bêtises, mais je me demande si elles étaient en bois avec des trous, hein, ou sans trous peut-être d'ailleurs. Mais... Et il y a une dragonne, ça c'est important, ça. Ça c'est très très important. Il faut la mettre. Ouais. Il y a un lien en corde à attacher au poignet. On ne joue pas sans, sinon ça part dans la tête de l'adversaire ou du partenaire et ça fait mal.
Ok, eh ben écoute, tu vois, je suis sur la page Wikipédia. Pour ceux qui cherchent, donc c'est inventé par un Mexicain. Et effectivement, je te confirme l'histoire d'après Wikipédia, l'histoire de qu'il n'a pas la place et tout pour faire un terrain de tennis autour de sa maison. Et donc au début, il jouait bien avec des trucs en bois, là, des palettes en bois, etc. pour commencer ça. Et c'est un sport qui est quand même assez ancien parce que il parle de 1974 cette histoire-là. Et donc pour tous ceux, parce que moi je suis un peu moqueur dans l'histoire, mais effectivement, il y a 50 000 pratiquants en France, 1,2 million en Espagne et 8 millions dans le monde. Voilà.
Tu vois,
comme ça, on est bien.
Ça pose les bases. Exactement.
Ça pose les bases, ça montre que c'est un sport. C'est olympique ou pas encore olympique?
Non. Non, apparemment, c'est en pleine discussion 2028 ou 2032, mais apparemment, c'est en pleine discussion. Mais étant un sport assez visuel, je pense que ça a ses chances.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis,
j'y serai pas. Hein.
Tu ne seras pas?
Non, je ne serai pas. On ne va pas se mentir, je n'y serai pas.
Bon, allez, ceci étant, maintenant que tout le monde a compris l'introduction au padel, alors moi, j'attends juste la version du padel sur paddle.
Non, plus dur.
Écoute, attends, on peut inventer des sports. Et tant qu'inventer des sports, on pourra dire que, on sait pas, on va inventer de nouveaux sports. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de sports qui sont inventés, il y a des trucs qui marchent bien, mais a priori, celui-ci, quand même, a trouvé son public. C'est bien, tu vois, et je pense que t'es le premier invité. Alors, j'ai une pensée pour Guillaume Vendée, parce que je crois que Guillaume Vendée, dont j'écoutais beaucoup les podcasts, etc., et qui a longtemps été un support sur Patreon, joue au padel, je crois, et tout. Donc, voilà, s'il écoute, peut-être qu'il confirmera, etc., mais je crois bien dans mes souvenirs dire qu'il en faisait partie, que c'était par lui que j'avais entendu parler de ce sport la première fois. Bref, écoute, maintenant on va parler de course à pied, parce que quand même, dans cette histoire-là, le plus important, enfin j'ai l'impression, c'est ce qui t'occupe le plus en ce moment, non, la course, enfin en dehors du travail, la famille, etc.
En dehors de la routine journalière que nous avons tous, c'est vrai que la course à pied, c'est ce qui occupe pas mal de mes journées.
Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'une association qui s'appelle Ice for Life, avec Wim Hof comme parrain. Alors, on va replacer un petit peu les choses. Déjà, tu vas parler de l'association, parce que je pense que c'est vraiment toujours important de mettre en avant l'association, et puis on comprendra mieux ce que tu veux faire, toi, quels sont tes projets.
Alors, moi, en fait, Ice for Life, c'est une association que j'ai rencontrée il y a de ça à peu près 8 à 9 mois, où en fait je suis ami avec Thomas, qui est le beau-fils de Tony qui est malade, qui est atteint de la SLA, qu'on appelle plus communément la maladie de Charcot. Et en fait ils ont décidé de se regrouper, toute la famille, de se regrouper en fait autour de Tony, et donc de monter cette association Ice for Life. Pourquoi Ice for Life? Parce que le froid, l'immersion dans l'eau glacée est au cœur du protocole expérimental qu'ils ont mis en place. En fait, Tony, lui, il pratique la méthode Wim Hof, il s'immerge dans le froid chaque jour, il s'exerce au protocole respiratoire. On a vraiment le froid qui est là en plein milieu du processus. Et moi, en fait, je suis arrivé. On parlait du padel tout à l'heure, et puis Thomas, c'est un joueur en fait. Thomas, on s'est rencontrés sur les terrains de padel, on a fait un ou deux tournois ensemble, et puis on bouge un peu sur toute la France, et le trajet à l'aller, le trajet au retour, il est toujours long. Donc on discute et il m'explique un peu tout ça, et moi je comprends qu'un papa d'une cinquantaine d'années qui se retrouve malade du jour au lendemain, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre, étant père de famille, étant sportif comme lui. Et je veux aider, tout simplement. En tant que sportif, je l'ai dit en introduction, amateur. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout quelqu'un de connu. Je ne suis pas un grand sportif qui fait des temps incroyables. Mais j'avais cette envie de montrer qu'à notre humble échelle, on pouvait filer un coup de main. Tout simplement.
Alors, il faut le dire, l'association, elle est à côté de Clermont.
Ouais, elle est à Beaumont, petite ville, toi qui es du coin, petite ville limitrophe.
J'ai habité à 100 mètres de Beaumont à une époque, alors je connais bien. C'était juste ma petite pente là pour aller faire des séances de côte. Si maintenant j'habitais là-bas, je ferais ma séance de côte juste dans la petite pente à côté. Mais à l'époque, je courais moins.
Non, ils sont sur Beaumont, sur Roya, ils sont limitrophes là.
Et alors, c'est intéressant d'ailleurs qu'ils aient réussi à avoir Wim Hof comme parrain. Tu sais l'histoire autour de ça, parce que Wim Hof, quand même, c'est une personnalité. Il y a même Hollywood qui met son histoire au cinéma, etc. Et tout. Donc c'est quand même une sommité mondiale qui est étudiée par le monde entier, parce qu'on se demande bien comment il fait. Tu sais un peu l'histoire, comment ça arrivait?
Non, je la connais pas à 100% à ce niveau-là, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que Wim, c'est le parrain, il le rencontre, ils sont devenus instructeurs Wim Hof pour certains membres de l'association, où ils font des conventions, ils font plein de choses. Non, on a vraiment, il y a une vraie relation avec Wim. C'est pas juste et c'est vrai que c'est comme tu viens de dire, c'est quelqu'un de très très important dans ce domaine-là. C'est pas juste un prête-nom. C'est vraiment, ils se rencontrent, ils en parlent, ils sont instructeurs de la méthode. On est vraiment sur quelqu'un qui les aide et qui les suit.
Ouais. Et en fait, je comprends. En plus, c'est logique, je trouve, pour Wim Hof, parce que alors, je sais pas si t'as lu toi les biographies de Wim Hof, etc. Mais Wim Hof, faut voir quand même que pour ceux qui le savent pas, il y a la partie de la méthode, parce que tout le monde voit les trucs. Le mec, il fait un exploit, il se met, il court un marathon. Pieds nus ou presque, ou torse nu ou presque à poil, il monte le Kilimandjaro à poil, il se met dans un bac à glaçons à New York, etc., pour battre des records, et puis il y a des chercheurs qui sont en train de se demander comment il fait tout ça, etc. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au début, s'il se trempe dans de l'eau froide, c'était aussi pour étudier comment le froid pouvait notamment aidé sur la partie bien-être, santé mentale. Il a une vie qui n'a pas été facile. Hein. Sa femme s'est suicidée en le laissant avec je ne sais plus combien d'enfants. Et il s'en voudra, il s'en veut beaucoup de ne pas avoir réussi à la sauver. C'est aussi pour ça qu'il fait toutes ces études-là, etc. Donc je trouve que c'est assez logique, en fait, d'amener comme ça... Si la méthode peut amener du bien-être pour des personnes, des malades, etc., je trouve que c'est assez logique. Mais c'est vrai que ça, sur le coup, ça peut être surprenant de se dire, bah tiens, une personnalité comme ça qui vient apporter son soutien à une association de cette manière-là. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est super bien parce que c'est vrai que ça permet aussi de montrer que, s'ils sont instructeurs, s'ils ont étudié, etc., les choses, c'est-à-dire que pour des gens qui sont intéressés par la méthode, c'est pas juste un farfelu dans son coin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, on se dit... parce que les gens sont toujours un peu méfiants sur Internet. Ils disent, ouais, mais attends, le mec, il tente ça, etc. Et comment on le fait? Mais l'idée, c'est que ce qu'ils tentent pour eux, c'est que c'est-à-dire qu'après, ça peut être... Ils doivent aider d'autres personnes, j'imagine, qui ont ces maladies. Il y a plein de gens qui les contactent.
En fait, le protocole, donc, comme je disais, qui est expérimental et qui est expérimenté par Tony, déjà, c'est... Il y a énormément d'impact hyper positif dessus, c'est-à-dire que bah, lui, il a énormément d'analyses, il y a son acidité sanguine qui diminue, il y a la production de tout ce qui va être protéines inflammatoires, en fait, qui descend. Voilà, en fait, ils arrivent vraiment grâce à ça, grâce à ce protocole, retarder.
Ouais.
Les effets de la SLA et ils ont aucune limite en fait là-dedans. Le but du jeu c'est de guérir, c'est vraiment ça hein, qui est voulu bien évidemment et en fait ils font des conventions au niveau d'Ice for Life avec des événements, avec de la mise en avant pour faire connaître l'association, pour faire connaître le protocole et pour justement essayer d'aider un maximum de personnes.
Et toi, alors maintenant, on va en venir à ce que tu fais toi. Donc toi, tu as la discussion, tu découvres cette cause-là, etc. Et maintenant, comment toi, tu te dis que tu vas les aider? Comment tu les soutiens, en fait?
Bien, comme je dis souvent, moi, assez simplement, moi, j'ai juste à courir. C'est vrai que c'est plutôt facile. C'est-à-dire que moi, en fait, comme je disais, je me mets à la course à pied parce que Simon, que je remercie d'ailleurs pour cette phrase, mon coach de padel, me dit écoute, tu peux prendre autant de cours que tu veux. Là, il va falloir encore un peu travailler le physique. Ça semble me faire comprendre qu'il en restait encore un peu. Et donc, je me mets à la course à pied totalement, j'allais dire, on est au mois de juillet et je m'y mets tranquillement entre deux barbecues, sympathiquement, je fais un footing ou deux. Et arrive la rentrée et j'ai la tante de mon fils qui me dit qu'elle s'est inscrite au semi-marathon de Paris, qui a lieu le 5 mars. Et je lui dis, allez, moi aussi, je viens. J'ai peut-être fait une dizaine de kilomètres à un moment donné, mais jamais plus. Mais ok, je m'inscris. Et donc, je suis inscrit. Et puis, on a cette discussion avec Thomas au mois de quelque chose comme novembre. Donc, je suis inscrit depuis un mois. Hein, donc, totalement juste pour moi, j'allais dire, pour mon petit défi personnel de faire le meilleur temps possible. Et je me souviens que quand j'avais pris le dossard, on pouvait mettre le nom d'une association sur le dossard.
Ouais.
Et je lui dis, bah, si tu veux, je peux peut-être modifier mon inscription et marquer Ice for Life si ça vous embête pas sur le dossard. Parce que peut-être qu'il y aura une photo à droite à gauche et qu'on verra le nom de l'asso et c'est toujours ça de tri dans l'idée. Et Thomas me dit, c'est super gentil, bien sûr, merci beaucoup. Voilà. Et puis je rentre à la maison le soir après ce trajet retour de ce tournoi de paddle où on a perdu, hein, évidemment. Je lui en veux un peu d'ailleurs. Non, c'est pas... Et je me dis, finalement, c'est pas grand-chose de marquer Ice for Life sur le dossard. Et moi, j'ai la chance de faire un métier où je suis en contact avec plein de personnes. Aujourd'hui, je suis commercial dans la pub. Donc, c'est vrai que je suis en contact avec plein d'entreprises diverses et variées. Je réfléchis à un projet. Je retombe sur Strava, sur un vieux temps qui datait... il y a quelques années où j'avais fait un semi-marathon en 2h07.
Ouais.
Donc voilà, je l'avais apparemment, j'avais déjà couru un semi, je m'en souvenais même pas. J'avais fait 2h07. Et en fait, je propose à l'asso de faire quelque chose d'assez sympathique, c'est d'aller chercher des partenaires qui allaient finalement faire un pari avec moi, avec l'association. C'est on part de ce 2h07 et toutes les minutes battues sur ce record, il y a 10 euros. Donc, je fais 2 heures pile, ça fait 70 euros par entreprise et ainsi de suite. Voilà. Moi, honnêtement, je m'attends à trouver 5 entreprises et en 24 heures, on en trouve une quinzaine. Et j'allais dire, et on finit à plus de 20. Ouais, donc vraiment, et on a dû envoyer, j'allais dire, en fait, on a envoyé peut-être 25 mails et on a 20, 22 réponses positives, quoi. Et là, bon, là, petit coup de pression parce que je me dis finalement, il faut que je m'entraîne très sérieusement parce que là, parce que là, oui, parce que ben, comme pour la SLA, comme pour le combat dans la maladie, ben, chaque minute compte. Là, vraiment, j'ai plus l'impression de courir que pour moi. Et je vise 1h55. C'est vraiment à la fin du bal, c'est vraiment ce que je vise, 1h55, 1h50. Et le jour J, je fais 1h42. Ouais. Alors déjà content. Content personnellement, ne serait-ce que de l'avoir fini. Et très très fier de faire aussi ce temps-là qui amène plus de 5 000 euros pour l'association.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'était incroyable. C'était inespéré. Vraiment. Donc, non, non, ouais, c'était super. Ça, c'est voilà, donc voilà comment on a fait ce premier projet. Et après, ben, finalement, on a décidé tous ensemble peut-être de ne pas en rester là et on monte un autre projet qui est comme ben, tu sais bien ce que c'est quand tu commences à courir. Tu cours au début, tu cours 100 mètres, 1 km, et puis tu vas toujours chercher un peu plus loin. Hein, tu vois bien ce que
Ouais,
c'est. Et là, je
mais
prépare mon premier marathon.
voilà. Et en fait, il y a un truc quand même, tu vois, que je me dis, c'est que tu as 20 entreprises partenaires. Chaque entreprise donne 10 euros par minute que tu
Minute
gagnes par
gagnée.
rapport à ton temps. Donc, ce qui veut dire que finalement, à chaque fois que tu améliores ton temps d'une minute, en fait, il y a 200 euros de plus pour l'association qui est arrivée.
Ouais, c'est ça, c'était
C'est-à-dire
énorme en
que quand
fait.
tu regardes le truc un petit peu, tu te dis, mais la minute, ces minutes qui vaut cher, enfin, qui rapporte
C'est
gros,
énorme.
j'ai envie de dire, à l'association. Parce que
En
une
fait.
minute gagnée, enfin, je sais pas, t'as eu, ça s'est passé comment? T'as eu un moment ou un coup de mou
J'ai eu un coup de mou à un moment donné énorme. En fait, allez, deux trois gros sur le semi. J'ai eu deux trois gros coups de pression. C'est que ben justement, j'étais avec Amélie, avec qui je me suis inscrit. Et Amélie, elle visait 1h50, 1h45. Et donc je me suis dit bon, est-ce que je vais pas essayer de la suivre au début pour voir ce que ça peut donner. Et au bout de 4 km, elle me met 250 mètres. Et là, je me dis, bon, là, elle m'a fait complètement exploser. Je suis parti trop vite. Là, ça va être compliqué. Et en fait, bah, d'ailleurs, je la remercie pour ça. Elle m'a servi de lièvre hein, tout le semi. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un visage qu'on connaît dans la foule des 50 000 coureurs du semi de Paris, presque. Et en fait, j'ai réussi à tenir, à rester au contact, à rester avec elle après. Et à un moment donné, je me souviens avoir vu quelqu'un allongé par terre, tu sais, qui avait fait une petite crise d'hypoglycémie et qui était tombé. Et moi, j'étais un peu dans le dur en plus à ce moment-là. Et je me souviens, m'a dit, là, il faut pas lâcher. Faut continuer d'aller au bout parce que effectivement, chaque minute compte. Et c'est aussi ce que je me suis dit à peu près dans les 2 derniers kilomètres où là, j'ai donné tout ce que je pouvais jusqu'à la fin pour essayer de gagner chaque seconde précieuse parce qu'on avait dit effectivement avec les partenaires que une 42-45, ce que j'ai fait, ne valait pas une 43 mais une 42. Ils ont quand même été sympas parce
Ouais,
que ça fait une
d'accord.
différence mine de rien
C'est
à la
le
fin.
chiffre de. Oui, bah, ça fait pour chaque entreprise, ça fait
Ça
des sous.
fait une différence pour tout le monde, pour les entreprises, pour l'asso. pour tout le monde, ça faisait une différence.
Ouais, mais c'est comme on compte dans la cour. Et en fait, il y a plein de gens qui courent aussi comme ça, qui disent, ouais, mais quand je fais une 42, c'est bien une 42, 32 ou 33 ou 45, ça fait bien une 42. Mais c'est bien que ça, c'est bien d'avoir fait dans ce sens-là, je veux dire, tu vois, de dire ces chiffres-là, et puis les secondes derrière, on les oublie. Et c'est cool. Et il y a un truc, parce que je suis en train de regarder ton compte Instagram, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur la maladie de Charcot, donc la SLA. C'est que ça touche les plus de 50 ans. Un peu plus d'hommes que de femmes, et notamment souvent des sportifs. Alors,
souvent.
Là, je voudrais pas inquiéter quand même tout le monde, hein, tous ceux qui écoutent, parce que finalement, c'est une maladie qui est quand même très rare. Hein, sur Internet, il parle de 1 cas pour 100 000 ou 200 000, ou je sais pas quoi. Il y a pas, mais c'est une maladie mortelle, quoi, vraiment, avec une dégénérescence, etc.
Donc, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la SLA, c'est une maladie, en fait, qui est finalement très rare sans être trop rare. Ouais. Ce qui fait que c'est une maladie orpheline qui ne l'est pas assez pour déclencher des protocoles de recherche. Il y a 3 nouveaux diagnostics par jour, ce qui est beaucoup, mais pas assez, justement, encore une fois, comme je disais. Il y a 1200 décès par an et il y a 7000 personnes en moyenne qui vivent avec la maladie chaque jour. Mais c'est un chiffre, en fait, qui est stable. Ouais. Puisque ces fameux 3 nouveaux cas font que le chiffre est assez stable. Mais voilà, c'est une maladie qui touche les personnes de plus de 50 ans et qui donne une espérance de vie de 3 à 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi pas une minute à perdre. Le concept de ce semi-marathon où chaque minute comptait, finalement, rejoignait aussi l'idée de la SLA.
Bon, alors, maintenant qu'on a dit ça, hop, l'idée maintenant, c'est de préparer le marathon.
L'idée maintenant, c'est de préparer le marathon. J'aurais pas dit mieux. Le préparer est un grand mot. Je pensais pas que c'était aussi compliqué d'ailleurs.
Ah bon? Ouais, quand t'as fait un semi, le marathon, et c'est juste courir deux fois ça.
Oh, ben ça va.
Attends. Franchement, t'aurais pu te dire, je vais me faire un ultra de 150 bornes, etc. Ou je sais pas combien.
Hein. 2025.
Oui, 2025. Allez. et 2025, allez, on passe à l'ultra. Non, mais après, bon, c'est une blague. Non, mais c'est vrai. Et, enfin, je le dis en blaguant parce que. C'est vrai que quand tu passes la barrière des 21, tu rentres dans du temps d'activité qui devient pas si commun que ça, en fait. Hein. C'est vrai, parce que on fait le 10, on fait 21, on reste dans des temps d'activité qui sont finalement relativement faciles à gérer. Je dis bien relativement parce que c'est une question d'entraînement et t'as bien montré, on en a bien parlé. Et tous ceux qui savent le podcast savent à quel point il faut s'entraîner pour passer les caps 5, 10 et à quel point c'est stressant et tout. Mais le passer du semi au marathon, c'est pas juste doubler la distance, il y a autre chose. Et je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que c'était une blague. Mais c'est quel marathon que tu vises?
Eh bien, alors en fait, là, on est parti sur Paris. Ça a été le semi de Paris, ça a été une opportunité pour l'association, pour moi, de les inclure à mon projet personnel. Et là, on a vraiment eu envie de faire quelque chose plutôt ensemble. Et quitte à faire le premier marathon, on a pris le choix de faire Helsinki, en Finlande.
Bah oui, oui,
c'est le froid, exactement, le froid. Donc voilà, on est allé chercher Helsinki en Finlande et pour se mettre un défi un peu sympa, on est allé chercher un temps aussi.
C'est quoi le temps?
Je sais pas si je le dis, j'ai l'impression que ça va vraiment m'obliger à le faire. J'aimerais faire 3:30.
Eh ben, cours.
Et ben,
tu t'entraînes.
C'est ça, je suis en pleine danse.
C'est quand?
C'est août 2024.
Août 2024? Ah, bah, tu vois, quand je cherchais, c'est marqué mai 2024.
Parce qu'il y en a deux.
D'accord.
Il y en a deux. Ouais. Et j'ai pris le plus lointain.
Ah ouais, tu t'es laissé de la marge en fait.
Eh ben oui, j'ai essayé d'être un petit peu malin sur la préparation. Je me suis mis des courses au milieu.
Ouais.
Je me suis mis des courses au milieu, ce que je n'avais pas fait pour Paris.
D'accord.
Parce que c'est pas pareil de courir en sortant de chez soi et de courir en se levant tôt le matin et de mettre un dossard avec plein d'autres personnes et de prendre leur rythme et d'éclater au départ. Donc j'ai pris le choix de prendre des courses aussi. Voilà, j'ai d'autres semis, j'ai des trails, j'ai plein de choses que j'essaye de voir pour essayer de faire soit de le faire en mode compétitif, soit de le faire en entraînement, mais de mettre un dossard.
Mais tu t'es donné quand même de la marge, je veux dire, parce qu'on parle bien de 2024, hein, on ne parle pas de oui. ce mois d'août-là. Hein, c'est-à-dire que
tu as
pris
pas
vraiment
de
la marge pour bien te préparer. Quoi.
J'ai pris vraiment de la marge pour bien me préparer parce que c'est une distance que je ne connais pas. Mm. C'est une distance qui est, j'allais dire, mythique. Il y a 10 ans, quand on s'est croisés, si toi et moi, on s'était dit qu'on aurait fait un marathon un jour, je pense qu'on se serait peut-être fait sourire.
Mmh, c'est cool.
Donc j'ai préféré Kvyat Hano Vassano. J'ai préféré être tranquille et me dire voilà, est-ce que je pars sur le par exemple, je suis de Vichy moi, hein, comme toi, on n'est pas très très loin. Mes parents sont de Vichy. Est-ce que je fais celui de Vichy qui est en avril de mémoire?
Le semi.
Le semi, hein, c'est ça. Ouais. Où il y avait, enfin, tu vois, est-ce que je vais chercher des choses proches de chez moi et que je les fais assez vite, peu importe le temps que je fais, mmh. ou est-ce qu'on fait quelque chose où on se donne du temps? Et le fait d'être parti sur Helsinki en 2024 aussi permettait pour l'association de faire des événements autour de tout ça.
Ouais.
On a de faire un axe de communication à ce sujet-là. On met en place plein de choses grâce aux partenaires en fait justement hein, on est en pleine discussion pour faire un dîner de gala, pour faire une exposition dans une galerie d'art sur le thème du sport, enfin voilà, on a vraiment pas mal de choses qui permettent de mettre en avant et de communiquer en fait autour de l'association pour les faire connaître à travers ça.
Ouais, tu sais que Helsinki a une histoire particulière avec le marathon.
Alors, apprends-la moi avec plaisir.
Il y a un certain Emil Zatopek qui a fait un triplé aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, qui a remporté le 5000, le 10000 et le marathon. Distance qu'il courait pour la première fois. Et tu sais, Emil Zatopek, il a dit une citation qui va te... Tu sais, c'est sa fameuse citation que quand tu cours un marathon, ta vie change. Alors, je ne sais plus comment il l'a dit exactement.
C'est ça, et je me souviens. Pour changer ta vie, je vois.
Tu vois ? Et donc, c'est marrant. Enfin, bien sûr, il y a le froid, etc. Mais tu vois, symboliquement, courir... lui, il a couru... Alors, je ne sais pas le temps de son marathon, bien sûr, parce qu'Emil Zatopek est... un champion qui à l'époque en plus avait un méthode d'entraînement qui était vraiment que personne n'est capable de refaire maintenant, enfin en tout cas à mon niveau c'est impossible et tout, et vu la vie qu'il a eu etc, rappelons quand même qu'il travaillait dans les usines et qu'il courait vraiment de manière très particulière à l'entraînement, hein, c'est vraiment très très fort là-dessus, mais c'est vrai que Helsinki pour sur ce plan-là en tout cas a une histoire particulière avec le marathon, notamment pour Zatopek. Je sais pas si quelqu'un d'autre a réussi à courir le 5000, le 10000 et avoir la médaille d'or sur 5000, 10000 et marathon dans la même olympiade.
Alors moi ce que je peux te promettre c'est que ce sera pas mon cas.
Ouais.
Non, je ne ferai pas premier à aucun des trois. Mais par contre, la parallèle est belle. Je suis allé voir en même temps. Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon.
Ouais.
Et effectivement, pour un premier, c'est vrai que moi, courir ne serait-ce qu'un kilomètre m'a déjà fait beaucoup de bien.
Ouais.
Et donc, écoute, j'aurais plaisir à te dire après le marathon. Le semi a déjà été pas mal déjà.
Ouais, j'ai envie de dire, parce que pour ceux qui... Cette citation de Zatopek, moi, je confère que déjà, quand tu cours régulièrement, tu changes ta vie. C'est vrai qu'après, bon, il a son historique, il a sa vie, etc. Zatopek, il courait des milliers et des milliers de kilomètres dans l'année, hein, tout simplement. C'était un forçat de la course à pied. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas besoin de courir un marathon pour que ça change la vie. Hein. C'est pour ça que c'était intéressant aussi de parler de ton parcours, de la perte de poids, de ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi, tu vois, pour ça que quand j'ai vu ton projet, je t'ai invité, c'est que il y a plein de gens qui se demandent comment, et puis moi, dans le Start Running Club, combien il y a personnes qui m'ont dit, mais comment on peut courir pour une association, quelle association, comment on choisit, comment on fait. Et ce qui montre qu'en fait, c'est, alors bon, toi, t'es commercial, etc., t'as peut-être plus de facilité à aller au contact des gens, d'avoir un réseau et tout. Mais ce qui montre que finalement, ça part de pas grand chose. Ça part d'une discussion. Sur un truc qui est même pas lié à la course, que petit à petit tu dis bah tiens il y a ça, on va pouvoir faire ça, on construit des choses, etc. Et là maintenant tu me parles de marathon, tu me parles de gala, tu me parles des vêtements, tu me parles tout un tas de choses qui prennent de l'ampleur. Faut le dire aussi, t'es passé dans le journal.
Ouais.
Bah si, non mais.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses. Après, il y a eu plein. Tu il y a eu plein de choses qui se sont greffées. En fait, je me suis retrouvé dans le journal parce que tout simplement, on voulait essayer de mettre en avant l'assaut. Mmh. Et suite à ce passage dans le journal, on a eu deux nouvelles entreprises, je crois.
Ouais.
Dont une qui était un de mes clients et qui ne savait même pas que je faisais ça, parce que on n'en a pas parlé sur tous les toits, même si on aurait peut-être dû le faire finalement.
Bah ouais.
Ça me fait sourire de t'entendre dire tout ça, parce que moi j'ai commencé à courir mes premiers sorties footing. Hein, j'arrivais pas à le faire avec de la musique, je l'ai fait avec des podcasts, dont le tien. Non mais écoute, il faut aussi te rendre ça. Et je l'ai encore plus écouté quand j'ai décidé de préparer ce semi. Où là, et ben voilà, tout ce côté préparation mentale, je me rappelle, j'écoutais énormément le. Et après, je me suis fait mal au genou, rien de grave. Mais écoute, je me suis mis au vélo pour faire de l'entraînement croisé. Donc, je me suis mis à écouter kilomètre 350.
Voilà. Et ben tiens, voilà. Peut-être que tu feras un truc. Et tu es allé à Helsinki en vélo, en fait.
Peut-être.
Je sais pas combien de kilomètres.
ça doit faire une belle tirée, quand même.
Oui, mais alors. Plus le problème du vélo, c'est que plus tu croises le vélo et plus tu te rends compte que les gens, finalement, c'est pas le genre de truc qui leur fait peur. Pour l'anecdote, parce que il faut que je raconte quand même, il y a là, donc on est le 26 juin, tout à l'heure je vais acheter du pain, je reviens et j'ai un bar vers la maison et je vois, en y allant, je vois un vélo, un magnifique vélo, enfin franchement, un magnifique vélo, et avec des sacoches de voyage dessus, mais il n'y avait pas le propriétaire à côté. Donc je vais acheter mon pain, je reviens. Et là, je vois un monsieur qui est en train de boire et tout, donc les chaussures et tout, le casque et tout. Je lui dis « Ouais, et tout, vous venez d'où ? Je regarde votre vélo, vous voyagez d'où ?» Il me dit « J'arrive de Hongrie. » Non, pas de Hongrie. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Si, Hongrie, je crois, ou un truc dans ce genre-là. Tu vois, il est traversé, il m'a dit on a parlé de son voyage, de son parcours, etc. et tout. Alors, je pouvais pas enregistrer l'épisode de Kilomètre 350 avec lui, mais il m'a dit, je me suis fait plein d'amis, j'ai eu plein de discussions. Il me dit, mais vas-y, il faut que tu roules, il faut que tu fasses des voyages, etc. et tout. Donc, sois très méfiant quand même en écoutant les trucs comme ça, parce que tu sais pas en fait ce qui peut arriver. On n'est pas à l'abri sur un malentendu. On n'est vraiment pas à l'abri de cette histoire-là, donc méfiance, tu vois. Je vais dire méfiaté, comme ils disent en.
Oui, c'est vrai, j'ai compris. C'est l'Auvergne, ça.
C'est l'Auvergnat, en bon patois qu'on a de chez nous. Mais franchement, méfiance dans cette histoire-là. Quand même, tu n'es pas en préparation marathon, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que tu fais en attendant de préparer, finalement ?
Ben là, en fait, moi, là, aujourd'hui. Je fais du sport tous les jours. Mmh. Ça, c'est quelque chose. Déjà, c'est quelque chose qui, dans mon quotidien, me convient. Mmh. J'allais dire, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma routine journalière. Je fais du padel, je cours.
Ouais.
Je cours tout simplement. Je cours. Je fais du fractionné, je fais du long, je fais des petits trails, des petites séances de coach. Je cours pour me faire plaisir. Hein. Mmh. Je fais du vélo.
Ouais.
Je fais. Là, je me suis mis une nouvelle lubie. Je nage comme un caillou, donc je me mets à la natation.
Bienvenue au club. Club des cailloux.
Ouais, c'est ça. Peut-être bientôt d'ailleurs un caillou club. Hein. Tu ne sais pas ce que tu peux créer. Tu vas peut-être créer quelque chose. Non, mais plus ça.
Non, moi, je vais créer le peanut butter club. Moi, alors attends, je vais d'abord créer le peanut butter club et ensuite on verra le caillou.
J'ai créé le merguez running club.
Wow.
J'y crois beaucoup.
Je pense qu'il y en a plein qui sont fans de ça.
Moi, mon fils a cette expression qui me dit t'es qu'une merguez. Donc j'essaye de l'amener. J'essaye d'amener ce club-là. Non, mais voilà, je fais du sport, je fais du padel, je fais plein de choses. Je fais un peu de course à pied de temps en temps, un petit peu de muscu de temps en temps, un petit peu de padel de temps en temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à mon équilibre et qui fait du bien aussi parce que tu vois sur mes petites courses. Je donne la priorité à des courses enfants.
Ouais.
Quand je m'inscris. Parce que comme ça, mon fils, j'ai un petit garçon de 7 ans et demi, vient courir. Ouais. Il fait son petit 700 mètres, son petit 800 mètres. Et il a sa petite médaille à la fin. Et je trouve que c'est un bon exemple. Mmh. Voilà. C'est un meilleur exemple que la pizza dans le canapé que j'avais tous les jours à l'époque. Et donc j'aime bien. Mais parfois, je me mets aussi une pizza dans le canapé devant la télé et je trouve ça cool.
Oh
je cours aussi pour ça, je t'avoue.
Oh bah, de toute façon, il faut le dire, hein, pour ceux qui pensent qu'on ne tient pas dans la durée si on se prive de pizza toute sa vie. Hein.
Alors,
si on aime la pizza,
la pizza.
Hein, surtout la pizza, quoi. Franchement,
surtout la pizza.
Le reste, à limite, non. Enfin, il y a d'autres choses.
Non, mais pas la pizza.
Mais
pas
non,
la
mais
pizza,
après, parce qu'on en blague, mais c'est vrai que se priver de choses, c'est le meilleur moyen pour que tout s'arrête. Donc, il ne faut pas se priver. Il faut juste changer, et je le répète, hein, l'ordinaire de la pizza dans le canapé devient l'extraordinaire, mais fait d'autant plus plaisir. Et l'extraordinaire, qui à une époque pour moi était juste de manger un fruit et un légume dans ma journée, devient l'ordinaire. Voilà. Et c'est cet équilibre-là. Et de même que courir, qui était quelque chose qui était tellement extraordinaire que tu ne le faisais pas, devient maintenant l'ordinaire, et faire du sport, etc. Et c'est ça, en fait, l'équilibre de vie
tout
et tout. Ce qui est bien, en plus, c'est d'y avoir greffé, je veux dire, des causes comme ça, d'avoir mobilisé des entreprises. Et d'ici là, en plus, tu as le temps d'en mobiliser d'autres. Je veux dire, à force d'en parler à droite, à gauche, tu as le temps d'en mobiliser d'autres personnes.
C'est l'idée. Hein. C'est vrai qu'on est en pleine discussion avec d'autres entreprises pour justement aller chercher soit un axe de communication et de marketing. C'est de la mise en avant vraiment de l'association, de les greffer par exemple sur des événements, ou eh bien un aspect financier, parce que ça reste le nerf de la guerre.
D'ailleurs, tiens, je te le dis, parce que j'avais Atelier Running un jour, j'étais allé, qui m'a parlé de toi, il m'a dit ah, il y a un truc sympa et tout. Je dis je le connais.
Eux aussi m'ont parlé de toi. C'est marrant que finalement, Nico. Moi, je connais bien Nico là-bas, on est copains, et c'est là où je prends tout ce dont j'ai besoin pour courir, et je les remercie d'ailleurs de leur coup de main.
Ouais, et c'est là où aussi on voit, hein, en se greffant les uns les autres, etc. Parce qu'en fait, ça part de pas grand-chose au départ. Tu dis, tu as récolté combien? 5 400 ou combien tu as dit? Non,
ouais, on fait. Je peux pas te donner à l'euro près, mais on fait 5 400 € à peu près.
Ouais. Et donc sur le marathon, par contre, t'as pas de comparatif, tu peux pas faire le même principe.
Non, je veux pas. Et puis je veux pas.
Ouais.
Tu sais, quelque chose qui marche bien une fois, par exemple, eh bien, c'est difficile à reproduire. Et puis voilà, j'avais pas le comparatif et j'ai pas prévu d'en faire un à l'entraînement pour donner un comparatif. Hein. Je te cache pas que ce sera vraiment mon premier. Mais là, l'idée, elle est plus de faire de l'événement. En fait, pendant un an, de faire de l'événement. On est en pleine discussion. Je citerai pas le club, mais on est en pleine discussion pour faire une vente aux enchères, par exemple, de maillots avec un club de foot assez bien connu sur la région.
Ouais. T'as fini 8e du championnat?
Peut-être, qui sait.
Allez savoir. Il y en a qu'un. Non, après, il y en a d'autres. Ouais. Mais si tu prends le plus grand, en tout cas, c'est lui.
C'est eux, voilà. Et on est en pleine discussion avec eux pour essayer de mettre ça en avant. Comme je parlais également d'une galerie d'art qui s'est proposée de faire une exposition avec une vente aux enchères. Voilà, on est vraiment sur plein d'événements, ce fameux dîner de gala. On organise un tournoi de soccer, parce que même si c'est de la course à pied, eh bien, ça reste le sport. La mise en avant, elle reste à travers le sport. Et donc voilà, on va organiser un tournoi de soccer où l'intégralité des inscriptions sera reversée. Enfin voilà, on a des personnes en fait qui ont envie d'être acteurs avec nous de ce projet. Et c'est vrai que c'est une belle chose, parce que c'est comme on parlait d'Athlé Running tout à l'heure. On s'aperçoit que finalement, d'en discuter un peu à droite, d'en discuter un peu à gauche, et bien il y a tout se connecte. Et ça, c'est une très très bonne chose.
Ouais. Alors, tu vois, toi là, qui connaît bien, qui est commercial, qui sait vendre un peu tes projets, etc. Des gens qui voudraient avoir des, tu vois, qui voudraient faire des trucs pour des associations, etc. Tu leur donnes quoi comme conseil pour arriver à lancer la machine, tu vois, à faire des trucs dans ce genre-là?
D'y croire. En fait, c'est tout bête, mais j'utilise souvent cet exemple et je sais que ça va peut-être paraître bizarre, moi, je suis pas quelqu'un qui m'implique énormément dans les associations de base. Ça n'a jamais été dans les grandes causes ou le domaine caritatif. Ça n'a jamais été quelque chose en fait qui me parlait. Et là, ça m'a vraiment parlé. Et quand on a quelque chose qui nous parle, c'est là où vraiment on va aller, on va essayer de donner le maximum. Et donc voilà, déjà d'y croire. De croire en ce qu'on fait, et en fait c'est tout simple. En fait, parfois il suffit d'un d'une toute petite chose. Je le répète encore, je l'ai dit au début, moi je suis personne. Et finalement, à mon humble échelle, j'arrive à faire avancer tout ça. Pardon. Donc voilà, moi, comme je disais, moi je suis personne, et à mon humble échelle, j'arrive à faire avancer tout ça. Donc voilà, déjà, il y a toujours moyen. Donc si vous connaissez une asso, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour eux, eh bien, ça peut être que ce soit de l'aspect financier, que ce soit de l'aspect donner de votre temps. Parce que ça aussi, c'est quelque chose c'est peut-être même l'une des plus grosses valeurs que vous avez. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, et on s'en rend pas compte, mais aller passer une heure avec une personne malade ou en difficulté, lui apporter un peu de réconfort comme ça peut valoir autant que ce chèque que vous allez envoyer sans trop de conviction. Ça aussi, ça peut avoir son importance.
Bah écoute, c'est un chouette message. Bon, après la suite, déjà, bon, c'est lointain, hein, t'as un an, 14 mois pour préparer ce marathon. Donc, tu peux pas imaginer la suite, de toute façon. Hein,
Non.
C'est trop tôt.
Ouais, c'est trop tôt. Et puis, c'est un petit fonctionnement par palier aussi. Tu sais, par palier d'objectifs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, même si je me pose une petite question sur la suite déjà. Parce que j'ai une petite idée en tête, mais tu vois, j'ai déjà jeté quelques pierres en parlant de vélo et de natation, quoi. Je pense que je pense qu'un petit triathlon, un petit alors j'ai toujours, moi je te disais, j'ai grandi à Vichy, j'ai toujours entendu parler de l'Ironman de Vichy, tu vois, par exemple. Mais peut-être un half. Pour commencer déjà, on va y aller doucement, comme je disais. Mais ça peut être des choses qui vont m'intéresser, et puis qui ont une logique aussi, tu vois. C'est-à-dire jamais reproduire la même chose. On passe d'un semi-marathon à un marathon à Helsinki, à peut-être un half ou un iron, peu importe. À Vichy ou ailleurs, l'idée, elle peut être intéressante aussi. Et à titre perso, j'ai appris cette fameuse. J'aime bien les défis, moi, et j'ai eu vent de cette fameuse médaille des six majors en termes de marathon. Et je te cache pas que, l'accrocher au mur pourrait me tenter. Mais bon, là. Là, c'est plus compliqué, quoi.
Pour ceux qui ne le savent pas, donc les six majeurs, tu les connais par cœur?
Ouais, presque. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper, parce que là, sinon, de mémoire, c'est Tokyo, Berlin, New York, Boston, Chicago et Londres.
C'est
si
ça.
Je dis pas de bêtises, hein, c'est ça?
Exactement.
Et voilà, et donc c'est. C'est faire les six pour avoir une jolie médaille qui coûte quelques euros, mais qui coûte aussi pas mal de souvenirs, je pense, qui en rapporte beaucoup. Ouais,
ouais, et puis alors, je pense que même si elle coûte quelques euros, le prix pour se déplacer sur ces marathons-là, de toute façon, est tellement important.
C'est cela dont on parlait, ouais.
Ouais, ouais, c'est. À limite, tu vois, une fois après la médaille, ils peuvent se la vendre, parce que je pense que, vu l'investissement que ça coûte pour aller. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait un épisode. Il faut revenir dans les archives avec Audrey et Fabien sur eux, leur expérience au marathon de New York. Ils avaient dit le prix que ça leur a coûté de s'inscrire au marathon de New York. Hein. Ça fait un joli billet. Boston et compagnie. En plus, pour Boston, il y a le problème de la qualification. Il faut arriver à passer, à rentrer dans les qualifs, etc. Chicago, c'est un peu la même chose. Mais alors, j'ai découvert un truc intéressant. Tu regarderas un peu, parce que en regardant Boston, j'avais regardé le qualificatif, le minima qu'il faut faire en qualification. Et bien sûr, plus tu vieillis, et plus le temps qualificatif te semble abordable à faire, en fait. C'est-à-dire que au début, quand t'es jeune, tu dis waouh, putain, ça va trop vite. Et le temps de qualification, petit à petit, tu te dis ben, finalement, en vieillissant, si j'arrive à entretenir ma forme suffisamment longtemps, à continuer à courir, etc., et à progresser petit à petit, comme nous, on part de très loin, parce que quand tu perds 45 kilos, etc., et t'as un pourcentage de progression qui est vraiment super important, tu te dis que finalement, C'était pas si déconnant que ça.
T'es en train de me dire qu'il faut que je finisse par Boston, alors, c'est ça?
Ben, en fait, je me pose la question stratégiquement. Parce que bon, tu vois, New York, on sait que tu peux avoir les agences de voyage et des trucs et tout.
Oui, alors, tout à fait,
sur
ouais.
Boston, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Chicago, tu vois, j'ai un doute. Mais en fait, j'avais regardé le temps minimum de qualification pour Boston. Bon, je dis pas qu'il est facile à faire. Attention, hein, mais que, en fait, bien sûr, qu'on
c'est
intérêt
vrai.
À vieillir. C'est-à-dire que on a tout intérêt à vieillir à un certain moment. Mais il faut arriver à entretenir la forme. Et c'est là tout l'art, en fait, du truc. Et là, on revient, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, sur les notions de vieillard galopant, de tout bien vieillir, etc. Parce que il y a quand même des temps. Et alors quand même que je raconte pas de conneries pour ceux qui se posent la question. Donc toi tu m'as dit quoi, t'as 36 ans en fait.
Ouais, c'est ça.
Et toi là il faut courir en 3h05 le marathon.
Là tu vois on va attendre encore.
Voilà.
Alors, on va aller
mais par exemple. Et je le dis parce que quand tu rentres dans l'âge de 50 à 54 ans c'est 3h25. Et 55 à 59, c'est 3h35. Et quand je regarde les gens qui courent et tout, tu vois, sur les courses que j'ai autour de moi, les marathons, etc. Et là, je donne le temps homme, hein. Et ben, ça me semble pas si extraordinaire. Alors, je dis pas que c'est facile à faire. Je dis qu'avec l'entraînement, la progression, le temps de se donner, de progresser petit à petit, et ben, je me dis que rentrer dans ces quotas-là ne semble pas si extraordinaire quand tu te donnes le temps et que tu arrives à progresser petit à petit. Mais je dis pas que c'est facile à faire. Mais je me dis, le 3h05, tu vois, moi je suis dans la tranche, je dois faire 3h10. Non, 3h20, j'ai le droit maintenant, tu vois. Et l'autre jour, je regardais, je disais 3h20. Ça, pour l'instant, c'est trop haut pour moi. Mais ça me semble pas si éloigné que ça. Et surtout qu'en vieillissant un poil, tu vois, tu peux rentrer un peu plus facilement. À condition d'arriver à continuer à progresser. Mais comme on avait parlé dans l'entraînement master, on avait fait un épisode sur l'entraînement master, quand on commence de loin et tard comme nous, en fait, notre degré de progression, il est très important. Donc, c'est pas comme si on avait commencé à courir à 18 ans et que on était dans nos temps-là à 18 ans après 20 ans de course. Tu vois? Donc, je pense, hein, que c'est jouable. Mais je pense qu'il y a une question d'ordre à faire, etc. et tout, que faut le calculer, l'histoire.
Puis bon. Mais écoute, je te tiendrai au courant, dans 20 ou 30 ans si j'ai, j'ai la chance d'être encore en forme.
Bah écoute, dans 20 ou 30 ans, on fera l'épisode 1350 de Kilomètre 42 dans lequel on racontera comment t'as couru,
comment t'as eu cette médaille,
cette grosse médaille. Je sais pas si on pourra prendre l'avion pour y aller, on verra bien comment on va faire ou s'il faudra y aller à la nage, mais bon, d'ici
peut-être
là. Peut-être
en gravel.
Peut-être en gravel. Ouais, bah alors, si tu veux aller à Boston en gravel, je te souhaite beaucoup de courage.
Et en padel.
Et par contre, je peux te présenter des gens qui ont pagayé eux pour arriver de leur côté. Donc peut-être que tu pourras essayer de t'inspirer d'eux. En tout cas, bon voilà, sur ces considérations un petit peu humoristiques, c'est quoi ta prochaine course?
Là, ma prochaine course, c'est je reste pas très loin. Je fais le trail de la Perdrix à Superbès.
Ah.
Le 8 juillet. Tranquillement.
T'as commandé le beau temps?
J'espère. J'espère un peu de ciel bleu. Comme aujourd'hui là. Aujourd'hui il fait très très beau. J'espère, parce que c'est vrai que ça pourrait courir dans la boue. C'est pas plus agréable. Mais non, j'ai ça. Et après j'ai le semi-marathon de Chape à côté de la maison.
Il y a un semi-marathon à Chape.
Eh ben écoute, c'est le 15 octobre.
D'accord.
C'est le 15 octobre. C'est le tout premier. Et en fait, je devais partir faire celui de Chambéry, mais finalement, il y en a un à 4 km de la maison, donc je me dis, autant rester pas très loin. Et si tout va bien dans mon programme d'entraînement, j'ai la chance d'avoir une épouse très compréhensive qui a accepté de coupler les vacances d'avril. comme par hasard avec un semi-marathon pas très loin de là où on part. C'est fou comme le hasard fait bien les choses. Et donc le semi-marathon de Braga normalement en avril, début avril.
D'accord.
Au Portugal.
Alors, un semi-marathon de Chape, j'en ai pas du tout entendu parler. Alors pour ceux qui sont en Auvergne, tout le monde connaît la course des rois à Chape, dont j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, qui est la course la plus plate d'Auvergne. C'est le seul endroit où on a réussi à trouver une course plate. Il n'y a pas du tout de dénivelé.
C'est ça. C'est pour ça que le semi m'intéresse.
Ouais, le
pour
semi.
essayer de...
Ouais, là, tu as un coup à battre en record hein, sur le semi, parce que
c'est
vraiment plus plat, même Vichy, avec le passage des ponts, à mon avis, est moins plat que celui-ci. Donc, franchement, faut y aller là-dessus. Et pour l'anecdote, pourquoi je t'ai posé la question de la météo sur le semi de sur le trail de la Perdrix, c'est qu'un jour, une année, je m'étais inscrit au trail de la Perdrix et j'avais fait exprès de prendre le parcours qui était un poil plus long parce qu'il passait au pied du Sancy, parce qu'il avait la vue, parce qu'il y avait tout le truc, etc. Je pars de Clermont avec mes lunettes de soleil en short et en t-shirt. Je dis, je vais quand même prendre une veste, on sait jamais. Et quand j'arrive là-haut, c'était la pluie, le brouillard, il a failli neiger. Et on s'est perdu, donc parce qu'on savait plus où on était. Il y a des parcours et tout, on savait même plus où on était sur la première montée de la Perdrix. Et donc c'était le 30 juillet. Voilà.
Je vais prendre un coup de vent alors.
Donc prends un coup de vent. On sait jamais parce que ça reste de la montagne. Et alors c'est pour ça que je dis ceux qui connaissent pas l'Auvergne, parce que j'en ai d'autres qui m'ont dit tiens le trail de la Perdrix, tu le connais. Et à chaque personne qui m'a posé la question, je dis attention, attention, ça reste de la petite montagne. Mais de la montagne quand même, hein. L'Auvergne, hein, ça tourne très vite. Moi, j'ai connu la neige dans ce cadre-là, mais dans d'autres cas, en plein milieu comme ça. La vue est magnifique, mais quand le temps se met à tourner, etc., il peut y cailler un petit peu.
Alors, moi, je fais la petite version. Moi, je ferai le 10, moi. Hein. L'idée, elle est vraiment de le faire en mode footing. C'est un grand mot, mais voilà, tranquille.
Ouais,
tranquille.
Bah, à mon avis, le mode footing, la première montée va te sécher.
Ouais,
hein.
Je comprends.
Je crois que ça fait que c'est une montée, une descente, hein, je crois, dans ce cas-là.
Je crois que ouais, le 10, il est raide au départ, mais après, j'y vais pour la vue, quoi.
Ouais. Et prends des bonnes chaussures quand même, un bon amorti. Pourquoi ? Parce que c'est sur les pistes de ski, elles sont très dures, la terre, là, les trucs qui sont. Moi, j'avais un souvenir, j'ai eu mal aux jambes dans ces descentes, etc. Vraiment terrible. Mais bref, écoute, hein, tu feras ton expérience.
Je te dirai.
Bon, bah écoute. C'était sympa, tu vois.
Et puis, c'était super.
C'est comme ça que tu nous as permis en fait aussi de découvrir comment on peut se lancer à la fois dans le... Alors déjà, je te remercie parce que tout le monde maintenant sait ce que c'est le paddle. Et le paddle. Et donc on arrêtera de se moquer
paddle,
du paddle.
C'est espagnol. Le paddle.
Donc tout le monde sait ce que c'est que le paddle. Et donc maintenant, on a un peu plus de choses. Peut-être que ça peut intéresser des gens. On n'a pas parlé de CrossFit, mais j'ai fait un épisode CrossFit qui est diffusé là, tu vois. Donc sur lequel on a parlé du bénéfice du CrossFit, etc. Donc je t'en ai pas reparlé, mais bon, on voit que c'est tout complémentaire. On a parlé de course à pied, on a parlé de la maladie de Charcot, on a parlé de tous ces principes, de comment est-ce qu'on peut participer à ces genres de projets, etc. Comment on peut se lancer, tu vois. Et je trouve que c'était un épisode qui était très riche. Donc je te remercie beaucoup en tout cas pour venir expliquer tout ça. Je te souhaite une belle continuation, des bons entraînements. Attention, bien sûr, à pas te blesser, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même d'arriver au départ avec le sourire, etc. et tout. Et puis, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager les liens. Alors, le mieux pour te suivre, pour t'encourager, c'est quoi, Instagram?
Instagram, ouais, c'est là où je suis pas très très réseaux sociaux, mais c'est vrai que je fais l'effort pour l'assaut de mettre tout ça sur Instagram.
Ouais, donc quand on va sur ton Instagram, en plus on retrouve le lien vers la page Instagram de l'association. Donc vous verrez les photos et puis même Wim Hof et compagnie en photo. Et on pourra suivre les nouvelles aventures, les nouveaux projets qui sont en train de se monter, les progrès aussi hein, de Tony et puis de ceux que vous aidez par ce biais-là, parce que je pense que c'est aussi un vecteur d'espoir pour ceux qui découvrent qu'ils sont atteints de cette maladie et de se demander comment arriver à continuer à vivre avec ça, sachant le pronostic vital qui est à quel point il faut pas regarder la page Wikipédia, hein, je vous le garantis.
Qui est court et engagé, ouais, tout
ouais,
à fait.
Qui est court, engagé, où on parle, puis en plus ça mentionne d'autres maladies, d'autres signes qui rappellent, non mais Parkinson. Perte de parole, etc. Donc je le dis, hein, si vous êtes un petit peu hypochondriaque, comment on dit ça, n'allez pas dessus, parce que vous allez voir que ça peut faire hyper quelques inquiétudes là-dessus. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important en fait d'en parler, d'aider les associations, de voir que ben il y a des gens qui forcément qui cherchent et qui aident aussi ceux qui cherchent et ceux qui font avancer ce genre de choses. Donc je te remercie aussi déjà aussi pour ça. Et puis je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes d'épisode. Je te souhaite des beaux entraînements, hein, cours bien,
merci.
Trempe-toi bien dans ton petit congélateur, etc. Là, c'est bien la bonne saison. De toute façon, on avait 30 et quelques degrés aujourd'hui, donc c'est pile le temps là pour bien se mettre au frais.
J'y vais demain midi.
Eh ben écoute, va te tremper demain midi. Je fais aussi un petit clin d'œil à ceux qui font de la natation en eau libre et qui m'ont dit qu'ils adorent nager dans les lacs gelés l'hiver en Auvergne. écoute le podcast. Quelqu'un m'avait dit mais viens un jour. Franchement le froid, j'aime beaucoup l'histoire de Wim Hof, mais j'ai beaucoup de mal à mettre dans le froid. Je le dis, mais un jour, il faudra quand même que j'arrive à passer le cap, etc. Mais on peut suivre tout ça. Je te souhaite une belle continuation. Et puis nous, bien sûr, écoutez, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je sais pas qui. En fait, encore, je peux pas. Je sais pas. J'ai de l'ordre, j'ai le choix. Ce sera mon petit choix à moi, etc. Mais en tout cas, on continuera à parler de sport, de tous ces éléments-là, etc. Pour continuer à vieillir et bien vieillir, hein, et devenir ces vieillards galopants. Parce que maintenant qu'on a parlé, on a dit que le temps pour se qualifier pour Boston n'était pas si extraordinaire que ça quand on plus on vieillissait. C'est à une condition, c'est qu'on arrive à bien vieillir et qu'on devienne ces vieillards galopants et qu'on s'entretienne et qu'on arrive à s'entraîner sans se blesser et sans être malade, etc. Et qu'on fasse le mieux pour y arriver. Merci beaucoup Jean-François.
Merci beaucoup à toi Bertrand. Merci à tous.